Ce qui serait très mal, c'est que vous n'ayez aucune question. Mais il se peut que vous ayez des questions et que vous les gardiez pour vous. Ça, c'est très bien. Donc, il n'y a pas lieu de revenir sur les choses. Si on ne peut pas quoi, hein?
Je ne peux pas envisager cette régime nazi, cette époque nazi.
Cette quoi?
Régime nazi.
Ah!
Régime nazi, comme un phénomène de maladie politique, de l'économie de terre. Donc, une espèce de.
Pourquoi pas? Ah. Je veux dire, mais ça a peu de choses à voir avec Foucault, ça. Oui, ce serait à vous de vous demander dans quelle mesure on peut considérer des phénomènes collectifs comme des maladies. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, il n'y a pas de problème pour le moment. Hein? Je veux dire, pas de problème quant au point où on en est concernant Foucault. Oui? Très intéressant ce que vous dites. En gros, vous me dites que je ne tiens pas assez compte d'une évolution d'art ou de changement de Foucault ou du progrès de ses démarches. Déplacement, oui, mais enfin, comme c'est un mot savant, déplacement. Oui, mais enfin, ne l'attachez pas au mot. Ah, je vais vous dire, s'il s'agit de commenter certaines notions de Foucault, c'est deux tâches assez différentes. Essayer de montrer la nouveauté des notions et leur rapport, et d'autre part, et pourtant il faut bien faire les deux en même temps, essayer de montrer l'évolution que Foucault a traversée pour arriver à ça. Alors, c'est assez vrai que moi, personnellement, les questions d'évolution m'intéressent moins que la question de la cohérence dans un système de nouveaux concepts. C'est pour ça que je trouve cette remarque tout à fait justifiée. Mais ça ne me paraît pas très difficile. Je prends un exemple. On peut dire que jusqu'à l'archéologie du savoir, ce qui domine chez Foucault, c'est qu'est-ce que le savoir ? Qu'est-ce que savoir ? Et puis, avec surveiller et punir, et le livre qui s'appelle paradoxalement La volonté de savoir, on s'aperçoit très vite que Foucault se lance, en effet, dans une nouvelle dimension. Et qu'il ne s'agit plus exactement du savoir, mais qu'il s'agit du pouvoir. Et puis on s'aperçoit que, là on a moins de peine à s'en apercevoir, tellement il le dit explicitement, on s'aperçoit qu'avec les deux derniers livres, L'usage des plaisirs et le souci de soi, c'est encore une autre dimension qu'il découvre. En sens, pour reprendre le mot, il y a une série de déplacements. Il faudra les marquer, il faut les marquer. Vous remarquerez que, j'insiste sur le point suivant, c'est que comme j'ai commencé par la question « qu'est-ce que le savoir ?», à mon avis, je n'ai pas marqué à l'intérieur de cette question une évolution fondamentale. Et pourtant, la réponse à cette question n'est pas la même dans Naissance de la clinique et dans Archéologie du savoir. Mais s'il y a déplacement à l'intérieur de la question qu'est-ce que le savoir, il n'en reste pas moins. Qu'est-ce que le savoir est une question qui a sa consistance et qui trouve des éléments de réponse dans l'ensemble des livres jusqu'à surveiller et puis. Ensuite, il y a le déplacement. La question devient qu'est-ce que le pouvoir ? Bon. Il y a bien découverte d'une nouvelle dimension, on le verra. Et en effet, quand on aura fini tout ce que j'ai à dire sur qu'est-ce que le savoir, on passera à qu'est-ce que le pouvoir. Et là, j'essaierai de marquer qu'en effet, il y a, comme vous dites, un déplacement. Mais voilà ce qui m'intéresse encore plus. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est que bien sûr, il y a une nouvelle dimension. Mais que ce n'est pas par hasard qu'il passe d'une dimension qualifiée comme savoir à une autre dimension qualifiée comme pouvoir. Je veux dire, il faut bien que quelque chose dans la dimension du savoir l'ait forcé à passer à une autre dimension. Il faut donc que la question « qu'est-ce que le savoir ?» se soit heurtée à un autre problème, qui se présente au sein même de la question du savoir. Si bien que, pour rendre compte des déplacements, toute ma méthode serait qu'est-ce qu'il y a dans un énoncé, lorsque Foucault pousse le plus loin qu'il peut son analyse de l'énoncé, qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé qui nous force à quitter ce domaine du savoir pour nous installer dans le domaine du pouvoir. Or, il faut que ce quelque chose qui nous force à quitter le domaine du savoir soit inscrit dans le savoir lui-même. Donc, il faudra que nous découvrions dans l'énoncé même quelque chose à quoi l'énoncé ne peut pas répondre. Si bien qu'en sens, ne cessera pas de m'intéresser bien plus, si vous voulez, que le parcours de Foucault, que en quoi l'ensemble des nouveaux concepts qu'il crée, en quoi cet ensemble a-t-il une consistance? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que Foucault fasse succéder une analyse du pouvoir à son analyse du savoir. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les points d'ancrage qui ont fait, dans le domaine du savoir même, qui ont fait qu'il fallait passer à un problème du pouvoir. Et ça, à mon avis, c'est déjà présent dans l'histoire de la folie. Ce qui est présent dans l'histoire de la folie, c'est pas dès l'histoire de la folie. Ce qui est pleinement présent déjà dans l'archéologie du savoir, c'est pas une analyse du pouvoir qui ne surviendra qu'après, mais c'est la nécessité de dépasser l'énoncé vers une autre instance. Alors c'est seulement après que nous apprendrons que cette autre instance, c'est celle du pouvoir. Mais la nécessité de dépasser l'énoncé vers une autre instance est pleinement posée dans l'archéologie du savoir. Mais quelle est cette autre instance? On ne peut pas le savoir encore. Si bien que lorsqu'on découvrira par l'analyse du pouvoir quelle est cette autre instance, à ce moment-là, c'est comme si une espèce de blanc de l'archéologie du savoir était rempli. Alors, on peut certainement parler de déplacement d'un livre à l'autre, mais il me semble, à condition d'ajouter que ces déplacements, chaque fois qu'ils s'opèrent, viennent remplir un blanc de la période précédente. Mais pour tous ceux qui trouvent que je n'attache pas assez d'importance à une évolution, ça me paraît très légitime. Et en effet, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, voilà, je voudrais dire que, pour moi, tous les concepts nouveaux de Foucault se développent sur trois axes. C'est une pensée à trois axes. C'est-à-dire, c'est une pensée dans l'espace. Ce n'est pas une pensée sur un plan. C'est une pensée dans l'espace. Vous avez, mettons, un premier axe, savoir, un deuxième axe, pouvoir, un troisième axe, mettons, désir. Bon. Voyez, ce que je veux dire, c'est que, pourtant, les deux sont vrais. Il est vrai que Foucault commence par l'axe du savoir, puis atteint à l'axe du pouvoir, puis explore l'axe du désir. On dira, d'un axe à l'autre, il y a évolution, ou il y a en tout cas déplacement. Mais ce qui m'intéresse, moi, pour mon compte, dans ce que je vais faire cette année, c'est pas qu'il passe d'un axe à l'autre successivement. Ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des trois axes. Et comment les nouveaux concepts se dansent-ils en fonction de ces trois axes constituant un espace. Alors en effet, ce n'est pas difficile à ce moment-là de corriger chaque fois ce que je dirais en y introduisant l'idée ou en réintroduisant constamment l'idée que il a commencé par le savoir. Donc c'est toujours pour moi. C'est-à-dire, c'est des corrections que vous faites vous-même, et puis qui peuvent entraîner beaucoup de changements. Mais il n'est pas souhaitable que vous ayez la même lecture que moi. Sûrement pas. Moi, ce que je vous propose, c'est pour aider la vôtre. C'est-à-dire, la seule chose que je vous demande, c'est de bien vouloir considérer ce que je vous propose, mais pas du tout de me donner raison. Il faut au contraire que vous construisiez, que vous fassiez votre lecture propre, votre lecture à vous. Alors, bon, finalement, ce qu'on a abordé la dernière fois, c'est le tout début de la question, à mon avis, la plus difficile dans toute l'œuvre de Foucault, à savoir, qu'est-ce qu'un énoncé ? Et ce qu'on a dit, et là-dessus, donc, je vois, ça semble être clair, puisqu'il n'y a pas de question, on a vu, il faut procéder très doucement, on a vu un premier thème de Foucault, à savoir l'énoncé, les énoncés d'une époque, puisque les énoncés renvoient à des formations historiques, on l'a vu dès le début, eh bien, les énoncés d'une époque ne sont jamais cachés. Et pourtant, les deux doivent être tenus l'un avec l'autre, et pourtant, ils ne sont jamais immédiatement donnés. C'est compliqué déjà comme idée. Les énoncés ne sont jamais cachés. On l'a vu, en effet, je ne reviens pas là-dessus puisque tout va bien. Toute époque dit tout ce qu'elle a à dire. Toute époque dit ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut dire. Elle ne cache rien, ou du moins ce qu'elle cache est tout à fait secondaire. C'est-à-dire, en effet, tout à fait secondaire au sens où jamais l'histoire ne s'est faite par des secrets d'État. Le secret d'État, c'est vraiment une petite chose par rapport au mouvement de l'histoire. En gros, nous pouvons dire, une époque dit tout ce qu'elle a à dire. Bon, ça, on l'a vu, on l'a beaucoup développé, donc je suppose que vous me l'accordez, ou plutôt que vous l'accordez à Foucault. Mais ça n'aurait aucun sens s'il n'ajoutait pas aussi. Mais attention, ça ne veut pas dire que les énoncés soient immédiatement donnés, c'est-à-dire soient immédiatement lisibles. Alors ça se complique, ça. À la fois non secret, non caché, et pourtant non immédiatement visible ou lisible. Non immédiatement lisible. Ça veut dire quoi ? On comprend vaguement, si vous voulez, mais encore très vaguement. On comprend que Foucault est en train de nous dire, les énoncés ne sont jamais cachés, mais attention, vous n'y atteindrez que si vous vous élevez jusqu'à des conditions qui permettent de les extraire. Mais ça, ça lance un problème. Les extraire de quoi ? Je dis, comprenez, c'est pour ça qu'on va très très doucement. Je dis, les énoncés ne sont jamais cachés. Mais ils ne sont pas immédiatement donnés parce qu'il faut les extraire. En effet, l'énoncé va être une notion originale formée par Foucault. Il faut les extraire, encore une fois, de quoi ? Toute époque énonce tout ce qu'elle a à énoncer. Mais si vous ne vous élevez pas jusqu'aux conditions de l'énoncé à une époque, vous ne risquez pas de les trouver. En d'autres termes, encore faut-il savoir lire. Mais qu'est-ce que c'est que lire pour ça ? Une époque ne cache rien, oui, pour l'archéologue qui sait lire les énoncés. L'énoncé doit être lu, c'est-à-dire, dans ce cas, extrait de quelque chose. Extrait de quoi ? C'est ça, il faut bien vous pénétrer de ce problème. Peu importe si vous êtes d'accord avec ce problème ou pas, peu importe, c'est pas notre question. Il faut faire comme si vous étiez d'accord à un certain moment, quitte à revenir sur votre accord. C'est pas... Mais je veux dire, peut-être sentez-vous que c'est là que ça commence à être intéressant. Pour moi, c'était déjà intéressant, parce que Foucault nous disait, vous savez, toute époque dit tout ce qu'elle a dit. C'était un principe d'étude d'histoire, d'étude historique très intéressant. Il n'y a pas de secret. Mais il n'y a pas de secret. Et immédiatement, complété par si vous ne savez pas lire les énoncés, vous ne les trouverez jamais. Il faut les extraire. Il y a une et l'archéologie, ce sera l'extraction des énoncés d'une époque. L'extraction des énoncés d'une formation historique en tant qu'ils ne sont jamais immédiatement donnés, en tant qu'ils ne sont jamais immédiatement lisibles. Mais alors, qu'est-ce qui est immédiatement donné? On va peut-être avancer si l'on se demande qu'est-ce qui est immédiatement donné. La réponse de Foucault, ce serait ce qui est immédiatement donné, c'est des mots, des phrases, et à la rigueur, je préciserai tout à l'heure ce qui est à la rigueur, et à la rigueur des propositions. Mais Foucault nous dit, attention, ce que j'appelle énoncé, ce que j'éprouve le besoin d'appeler énoncé, ne se réduit ni aux mots, ni aux phrases, ni aux propositions, ni aux actes de parole. Et en effet, c'est en ce sens que, je vous rappelle, que le concept d'énoncé chez Foucault est si original qu'il aurait pu aussi bien inventer un mot nouveau pour désigner cette chose-là. Puisqu'il ne nous cache pas que, selon lui, ce qu'il appelle énoncé ne correspond à rien de ce dont les linguistes ou les logiciens nous ont parlé jusqu'à maintenant. Donc, il se réclame d'une originalité radicale du concept d'énoncé qu'il nous propose. Et sa thèse générale, ce sera, l'énoncé ne se ramène ni aux mots, ni aux phrases, ni aux propositions, ni aux actes de parole. Ah bon, alors, au moins, dans notre progression tellement lente, et que je voudrais très très lente, on s'arrête un peu là. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ça ne se ramène à rien que tout ça. Bon, ben profitons-en. Ça veut dire clairement que si nous en restons aux mots employés à une époque, aux phrases dites à une époque, aux propositions dégageables à une époque, aux actes de parole proférés à une époque, nous ne saisirons pas et nous ne pourrons pas saisir les énoncés. Bien plus, c'est là que nous aurons l'impression que les énoncés sont cachés. Si vous en restez aux mots, aux phrases, aux actes de parole, vous direz, les énoncés sont cachés. C'est pas du tout parce que les énoncés sont cachés, effectivement, c'est parce que les énoncés ne se réduisent ni aux mots, ni aux phrases, ni aux actes de parole. Ah bon, tiens. Essayons de donner un exemple. Je m'interroge sur la sexualité au XIXe siècle. Vous voyez tout de suite que l'exemple que j'invoque, c'est un exemple que Foucault développera tardivement. Il le développera dans le premier tome de son histoire de la sexualité, à savoir dans le livre intitulé « La volonté de savoir ». Et il prend un très bon exemple dans le chapitre, dès le début, dans le très beau début de La volonté de savoir. Le chapitre, le premier chapitre, s'intitule « Nous autres victoriens, la période victorienne ». Et qu'est-ce qu'on entend dire sur la période victorienne? En quoi est-ce qu'elle nous intéresse? On nous dit souvent que c'est une période où s'est exercée une profonde répression de la sexualité. Et que notamment, il était défendu d'en parler. Bien plus, ça organise une certaine histoire toute faite, hein. Au XIXe siècle, nous dit-on, on ne parlait pas ou on parlait peu de la sexualité. Et puis, Freud est arrivé. Bon. Une pareille conception est quand même louche. Freud est arrivé, alors quoi? Alors Freud est arrivé, et puis on s'est mis à parler de la sexualité. Il a enfin parlé de la sexualité. Alors il y a des problèmes. Tout de suite, si je prends cette proposition. C'est pas un énoncé, cette proposition. Freud est arrivé et nous a appris que l'enfant, tout petit, avait déjà une sexualité. Hein? Alors quand même, qu'est-ce qui nous trouble? Qu'est-ce qui trouble tout un monnette à une pareille proposition? Peut-être qu'on ne la tient plus aujourd'hui, mais en grande partie grâce à Foucault. Et puis si on ne la tient plus, n'empêche qu'on l'a tenue dans les manuels de psychanalyse il y a longtemps. On nous présentait des choses comme ça. Qu'est-ce qui nous gêne? Ce qui nous gêne immédiatement, c'est des trucs dont on avait presque honte de parler. On se dit, mais voyons, il n'y avait pas de nourrice à l'époque. Il n'y avait personne qui changeait un petit enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne savait pas qu'il y avait une sexualité infantile, ou on n'en parlait pas. Quand une nourrice rencontrait une autre nourrice, ne parlait pas des phénomènes de sexualité infantile chez le bébé, non. Elle ne se parlait pas à elle-même quand elle changeait le gosse. Bon, c'est bizarre, ça, vous ne trouvez pas? Je sais pas, c'est quand même très très bizarre. Et puis, les phénomènes d'onanisme. L'onanisme, c'était pas connu, ça. Alors là, on se dit, évidemment, ça, c'était connu. Mais alors, on s'était connu et on n'en parlait pas. Sentez que c'est du pur Foucault, en quel sens? Il ne faudra pas s'étonner si Foucault nous dit, et on verra l'importance que ça a pour la philosophie en général. Là, je le fais parler, mais il y a l'équivalent chez lui. J'attache plus d'importance à un énoncé de nourrice qu'à l'énoncé d'un grand psychiatre. C'est-à-dire, il faut choisir. Il faut choisir les énoncés auxquels vous allez vous adresser. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a un livre qui arrive à la fin du 19e siècle, qui commence à la fin du 19e siècle, hein, qui est devenu le grand classique de l'époque et qui se fait indépendamment de toute influence de Freud et de la psychanalyse. C'est le livre colossal qui est resté la base de tout, le livre de Krafft et Bing. Taera 2FT. Petit tiret, E-B-I-N-G. Krafft et Bing publie son énorme livre Psychopathia Sexualis. Psychopathia Sexualis. Tiens, le titre est en latin. C'est très intéressant que le titre soit en latin. Dans l'entrain, lisons jusqu'au sous-titre. Le sous-titre nous dit à l'usage des juristes et des médecins. Bon. On parcourt le livre. L'on voit que c'est un classement de toutes les perversions sexuelles existantes et imaginables avec des exposés de cas qui, pour la plus grande majorité, couvre l'ensemble du 19e siècle. Les plus grandes horreurs y apparaissent. Amour avec des cadavres. Amour pour les excréments. De véritables abominations. Ils sont chaque fois numérotés avec des analyses de cas. Et quand on feuillette ces analyses de cas, on est frappé de ceci, que de temps en temps, dans une analyse, le livre est en allemand, mais il est traduit en français, chez Payot, Donc que dans chaque analyse de cas, au moment qui paraît le plus frappant, la phrase devient latine. Est-ce une véritable manière de cacher? Si vous considérez qu'à l'époque, le moindre lycéen